If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Le sens de la fête, un podcast de Christophe Caillet pour Nick, la radio.
La nuit, tous les chats sont gris. A-t-on déjà énoncé une plus grosse bêtise ? À la lumière du stroboscope, les chats deviennent rose, bleu, vert, violet, arc-en-ciel. La nuit est un nuancier infini, une galerie de portraits, de singularités. Un monde où les costumes anthracites tombent et où les personnalités explosent. Si la fête est toujours l'expression d'une culture ou d'une époque, elle a aussi quelque chose de profondément universel. Partir à la recherche du sens de la fête, c'est se demander en chemin ce qui nous lie en tant qu'humains. Dans cette troisième saison du podcast Le sens de la fête, en collaboration avec Villa Schweppes, on explore la teuf avec celles et ceux qui la font ou qui l'ont faite.
La musique de Kassav a commencé par être jouée dans les zouks. Si vous voulez être populaire, il faut que les gens aient la chance de vous entendre. Ce n'est pas uniquement l'après-midi du Mardi Gras à Fort-de-France qui va vous permettre de faire connaître votre musique à tout un peuple. C'est quand ils auront l'occasion de l'entendre en radio et dans les soirées. Donc la musique de Kassav était jouée dans les zouks. Et la musique de Kassav n'avait pas de nom. C'était la cadence, trait d'union, machin. Mais comme je dis, la cadence existait déjà chez les Dominicains. Ça aurait été difficile de dire cadence et cadence sans mélanger les deux. Tout le monde s'y perdrait. Donc, en fait, il fallait réellement trouver un nom pour la musique qu'on proposait. Et comme c'était de la musique de zouk, c'est devenu le zouk.
Cette femme est une légende. La première femme antillaise de l'histoire à recevoir un disque d'or. Son groupe est légendaire. Zénith, Bercy, Stade de France, tournée mondiale. Kassav a inventé et popularisé un genre, le zouk, rien que ça. Jocelyne Béroir est née en 1954 à Fort-de-France, en Martinique. Mais sa voix continue de faire danser le monde entier. Chaque concert de Kassav était un show intégral, intense, une fête totale. Mais dans l'Hexagone, les musiques des Antilles sont bien souvent caricaturées. Soleil, exotisme, tube de l'été. Comment s'exprimer en tant qu'artiste quand on est assigné au rôle de musique festive ? D'autant que la fête en Martinique, c'est aussi en réalité une fête politique, un point créole levé, une catharsis collective qui explose dans les rues de Fort-de-France lors du carnaval. Debout et fier, nous partons explorer le sens de la fête de Jocelyne Béroir. Jocelyne Béroir, bonjour.
Bonjour.
La dernière fois que vous avez fait la fête, c'était quand ?
Il n'y a pas si longtemps, en fait. On était avec des amis, on avait loué 3 appartements qui communiquaient, des villas à la Martinique, en fait. Et on se retrouvait le même endroit à manger ensemble, rigoler ensemble, etc. Pour moi, ça, c'était faire la fête.
Justement, quand est-ce que vous considérez que vous faites la fête ? Ça veut dire quoi, faire la fête pour vous ? C'est les copains, c'est la musique, c'est...
Oui. Faire la fête, c'est être avec des gens, d'abord avec lesquels on s'entend bien, déjà. Et puis, passer un bon moment, quoi. Je veux dire, on peut faire la fête au bord de la plage. c'est-à-dire jouer au volet, machin, s'amuser tout simplement, c'est s'amuser, oublier le quotidien, parce que bon, en ce moment, surtout, on a repris, on reprend avec Kassav, je fais également des prestations en solo, je suis invitée aussi par plein d'autres musiciens à les rejoindre, à partager la scène avec eux, donc je me retrouve souvent dans un stress perpétuel. Et donc, me retrouver un week-end alors que je travaillais 2 jours et j'avais 1 jour off avec des amis avec lesquels on pouvait mais rigoler, dire n'importe quoi et compagnie. On avait une petite piscine en plus privée, donc on pouvait se retrouver là à boire un jus ou autre chose. Et ça pour moi, c'était vraiment aussi faire la fête, quoi. Maintenant, il y a d'autres façons de faire la fête qui sont comme, par exemple, dans mon enfance, en famille, à Noël, on se retrouvait avec parents et enfants, le même endroit, les parents qui jouaient du piano et tout le monde qui chantait autour, quoi. Donc ça aussi, c'était faire la fête, quoi. Faire la fête, pour moi, c'est pas nécessairement se retrouver à un endroit où on va danser. C'est juste passer un moment où on est bien ensemble.
C'est avant tout le partage.
Voilà, partage, ouais, complètement.
Et c'est important pour vous, dans votre vie ?
C'est hyper important, on a besoin de ces soupapes-là. C'est clair que par moment, on a une vie qui est tellement tumultueuse, à bouger, à devoir machin, répondre au téléphone, regarder si on est libre tel jour parce qu'on vous sollicite tel endroit, etc. Les déplacements, les avions, les trains, les histoires comme ça, que c'est une respiration, c'est hyper important d'avoir ces respirations-là pour recharger les batteries. Malgré tout le stress que j'ai justement autour à cause de mon métier, quand je suis sur scène, je prends du plaisir aussi à être en scène avec les gens en face et je fais aussi la fête avec les gens qui sont en face. C'est-à-dire que quand je chante, je m'éclate et les gens en face, ils voient que vous vous éclatez, ils s'éclatent aussi et donc on fait la fête ensemble.
Ouais, un concert, c'est une forme de fête en soi.
C'est une forme de fête, oui.
Ouais.
Par moments, évidemment, il y a des chansons un peu plus dramatiques, etc., etc. Mais malgré tout, globalement, je veux dire, les gens repartent et ils sont heureux. Et je crois que c'est ça. Et on sort de scène heureux également. Si tout se passe bien.
On va y revenir évidemment à la scène et au concert comme fête, mais alors pour revenir peut-être un peu aux sources et à votre enfance, vous avez grandi à Fort-de-France, en
Tout
Martinique. Et dans votre autobiographie Loin de la mer, vous racontez avoir grandi dans une famille plutôt stricte, plutôt un peu bourgeoise et stricte, et c'était pas trop la fête chez vous ?
L'éducation était stricte, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on ait les bonnes manières, dire bonjour, merci, laisser sa place à la personne âgée et compagnie, etc. Mais malgré tout, nos parents aimaient la musique, donc ils en faisaient un petit peu. Ils appelaient, quelquefois, les voisins venaient. Je me rappelle quand j'étais petite, les voisins venaient à la maison et jouaient de la guitare. Alors nous, on était évidemment au lit, on nous envoyait au lit, mais bon, on écoutait quoi. On dormait pas, on écoutait les chansons. Et ça a été peut-être une forme d'éducation. C'est ça qui m'a, je pense, appris à aimer les vieilles musiques de chez nous. Voilà, c'est en écoutant justement mes parents s'amuser avec leurs voisins qui jouaient de la guitare et qui chantaient.
Parce qu'ils jouaient des vieilles biguines.
Voilà, ouais. Exactement. Ils se retrouvaient comme ça, ou alors ils se retrouvaient pour jouer à la belote ou des trucs comme ça, quoi, le soir pendant les vacances, évidemment.
Mais alors, je lisais quand même que votre père vous interdisait d'aller dans les booms d'ados.
Voilà. Alors ça, il avait peur, évidemment, qu'on perde notre vertu malencontreusement dans ces soirées. Il a voulu surprotéger ses filles. Et évidemment, comme j'étais l'aînée des filles, j'ai été celle qui a été la plus brimée, quoi. Parce que les autres derrière ont eu la chance de pouvoir quand même aller dans une ou deux surprises parties. Alors que moi, c'était niette carrément, quoi. Il fallait qu'il soit là, il fallait qu'il regarde ce qui se passe. Voilà, donc c'était chaud quoi. Quand on était petit, je lui en voulais un peu quand même.
Ouais, j'allais dire, vous le viviez comment vous ? Il y avait de la frustration ?
Ah oui, énormément, parce que bon, vous savez, quand vous êtes ado, c'est l'âge où vous commencez à être amoureux, on vous empêche d'aller danser avec vos petits copains ou retrouver vos amis, aller à la plage avec eux. Et quand j'arrivais au lycée, les filles racontaient ouais, qu'elles étaient à tel endroit avec des copains, tout ça. Et moi, j'avais rien à raconter. Et à la limite, les gens, même quelquefois, ne vous fréquentaient pas puisque vous n'étiez pas dans les ambiances qu'ils aimaient, quoi. Et moi, j'avais pris le parti, en fait, de m'évader autrement. comme j'étais, j'aimais peindre, j'aimais dessiner, donc et ma mère encourageait ça. Mais je me rappelle, à l'époque, il y avait une école qui faisait des cours par correspondance, l'école AB, je crois, de dessin, etc. Donc elle m'avait inscrite. Chez moi, je griffonnais beaucoup, je dessinais des vêtements, je dessinais toutes sortes de choses, des portraits, des histoires. Et puis je me suis mise un peu à la peinture, je n'étais pas très douée en peinture, meilleure en dessin. Je m'évadais, je cousais aussi parce que j'aimais pas les vêtements que ma mère m'achetait, donc je créais mes propres vêtements depuis mon adolescence, quoi. Voilà.
Alors est-ce que vous diriez que presque cette frustration et cette privation de festivités, de liens sociaux un peu avec des jeunes de votre âge a d'une certaine manière développé votre créativité?
Exactement. Exactement, je crois. Et ma mère disait toujours, vous allez nous dire merci, vous nous remercierez après, etc. Et c'est vrai. Finalement, je dis, bon, c'est vrai qu'il y a cette frustration, mais je crois que ça ne m'a pas rendue plus bête, ça ne m'a pas rendue... je n'ai pas l'impression d'être caractérielle ou quoi que ce soit. Quoi. Je pense être quelqu'un d'absolument normal. Par contre, j'ai une certaine rigueur dans ce que je fais, parce que j'ai pris l'habitude, en fait, de toujours... faire attention à plein de choses, quoi. Mais c'est, la créativité, je pense que c'est à ce moment-là que je l'ai développée. Et j'aimais chanter, c'était aussi une façon de m'évader. Je pouvais pas m'accompagner, mais j'écoutais Mahalia Jackson ou Edith Piaf, je les imitais, j'imitais aussi les chanteuses de chez nous, quoi. Je veux dire, c'était une jolie chanson qui me plaisait, je la prenais.
Ouais. Voilà, donc c'était... Vous faisiez votre petite fête à vous, dans votre chambre.
Voilà, donc chanter déjà a été une façon pour moi de... ma façon de faire la fête, quoi. Voilà.
Ouais. Alors je lisais quand même dans le livre, il y a même une histoire que vous relatez de votre père un jour qui est en panique en vous voyant danser sur Soul Sacrifice de Carlos Santana. Donc il n'aimait pas que vous dansiez non plus.
C'était quand même des percussions. Les percussions chez nous, en fait, comme j'explique dans le livre, faut pas oublier qu'on est quand même au lendemain de la départementalisation. Avant c'était une colonie, avant il y avait l'esclavage. Le grand-père de ma mère est né esclave. Donc, à l'abolition, il avait 2 ans. Donc, en fait, tout ça, pour la génération de mes parents, il était nécessaire d'avoir les bonnes manières, d'avoir une éducation, parce que dans leur tête, on avait inculqué que le nègre était un sauvage. Voilà. Donc, il fallait sortir de cet état-là. Et en fait, dans les campagnes, ils jouaient du tambour et compagnie. Et on ne voyait pas beaucoup le tambour en ville, sauf dans les trucs folkloriques. Avec les ballets folkloriques. Donc, en fait, le tambour, c'était pas... il valait mieux jouer du violon que du tambour, par exemple. Il y a Henri Guédon qui a une chanson comme ça, qui dit justement que tout petit, on lui a donné à apprendre le violon. Et lui, il avait soif de tambour. Moi aussi, j'avais envie de connaître le tambour. Et comme l'Afrique, pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire que je voulais découvrir un jour, quand j'ai été voir ces ballets qui dansaient justement sur du tambour, c'était comme une révélation pour moi. Donc le lendemain, comme le verso de Soul Sacrifice, c'était un truc de percussion, et Soul Percussion interminable, donc je me suis mise à essayer de danser comme les Africains et compagnie. Et mon père a eu un peu peur que je rentre en transe. C'était un peu... C'est peut-être un peu naïf, quoi, mais... Il a dit que c'est que ce truc-là... parce que, bon, moi, on m'a appris la danse classique, quand même. Donc, c'était toujours cette histoire de sortir de l'état soi-disant de sauvage qu'on nous avait brainwashed, quoi. C'est-à-dire que les gens, il fallait pas être le nègre, quoi. Voilà. Il fallait être quelque chose de distingué, patipata, et danser sur du tambour, c'était un truc de sauvage, quoi, pour mon père. À l'époque, il a changé, après. Mais jusqu'à cette époque-là, il avait ça dans sa tête.
On va y revenir à la place des tambours dans des formes de festivité en Martinique et notamment dans le carnaval, forcément. Vous, quand vous étiez petite, vous disiez qu'il y avait de la musique chez vous.
Qu'est-ce qu'on écoutait comme musique et qu'est-ce que vous écoutiez comme musique? C'était très dominé par l'industrie musicale française, non? Les yéyés, etc.
Oui, il y avait beaucoup de ça, mais mes parents n'étaient pas tellement variété française. Ils étaient beaucoup plus, Satchmo, jazz, Ella Fitzgerald, et puis Celia Cruz, salsa, etc. Quand j'ai fouillé, quand j'ai eu le droit de toucher au disque de mes parents, j'ai trouvé des choses, mais complètement, un répertoire complètement éclectique, quoi. Je me rappelle comme on voyageait aussi pas mal, on allait à Barbade, à Trinidad et compagnie, donc il y avait la soca, enfin le calypso à l'époque, avec Mighty Sparrow, donc on avait tous ces disques-là, là. Il y avait toutes sortes de musiques, du jazz, de la musique classique et de la musique caribéenne, et puis également la musique traditionnelle de la Martinique avec Lola Martin qui chantait les vieilles biguines et compagnie.
Quand Martinique douce, yo belle, yo jolie, yo toute chaude.
Donc j'ai été nourrie de toutes ces musiques. Et puis le gospel avec Mahalia Jackson, entre autres. Quand j'étais petite, c'était mes exemples, quoi. Je voulais chanter comme Mahalia Jackson, In the Upper Room, ces trucs-là. Ou alors Piaf, avec son accordéoniste, ça lui rentre dans la peau, parle pas. Et j'imitais tout le monde, quoi.
Summertime, and the living is easy.
J'étais assez comédienne, paraît-il. Ma tante disait, ouais, j'étais toujours en train de jouer la comédie. Il fallait que je fasse des grands gestes, que je parle, que je déclame des choses. Quand il y avait des récitations au lycée, je demandais à faire la récitation parce que je la prenais et tout. J'étais un peu comédienne, quoi, sur les bords. Donc, tout ça, c'était mon environnement et c'était complètement artistique, quoi. Alors que j'étais éduquée pour, puisque mon père était chirurgien dentiste et ma mère prof d'anglais, donc je devais avoir un vrai métier, donc j'aimais les sciences, donc j'étais partie pour faire un métier scientifique, quoi. Voilà. Toutes ces musiques, toutes ces choses que j'écoutais, c'était mon évasion, c'était ma façon de faire la fête, quoi, toute seule.
Alors, il y a un temps de fête qui est assez, non seulement spectaculaire, mais important en Martinique, et où les tambours ont une importance, c'est le carnaval.
Le carnaval.
Le carnaval, évidemment. Mais alors là encore, si j'ai bien lu votre livre, vous n'aviez pas le droit d'y aller quand vous étiez petite.
Je n'étais pas autorisée à aller dans les rues parce que, toujours cette histoire de mon père avait des filles, il les protégeait. C'est tout, il les protégeait comme il en avait envie, c'est-à-dire en les brimant, quoi. Et vous aurez le temps, quand vous serez adulte, si vous voulez faire quelque chose, quand vous aurez votre maison, vous le ferez. C'était ça, c'était ce qu'on entendait. Donc, on ne pouvait pas, et ma mère ne nous autorisait pas à aller, elle disait toujours, demandez à votre père, parce que sinon elle se faisait engueuler derrière. Donc on était à la maison. Voilà, alors les temps, on allait voir le carnaval, on était donc au cabinet dentaire de mon père sur le balcon, on regardait d'en haut, mais on entendait les musiques. Il n'y avait pas encore véritablement les tambours. Les tambours sont arrivés après. Ils sont arrivés après, je pense que le tambour est doucement descendu, arrivé en ville, comme on dit, descendu en ville. Et avec Eugène Monnat, entre autres, les gens ont commencé à réellement être intéressés par la musique, justement, les gens de la ville, parce que les gens de la campagne connaissaient déjà. On connaissait vaguement quelques chansons qui avaient été reprises par les groupes folkloriques, quoi. Mais le vrai tambour roots, véritablement, c'est par le biais d'Eugène Monnat que les gens de Fort-de-France sont habitués, quoi. Voilà.
Et alors ce carnaval que vous regardiez depuis le balcon, un peu de loin, sans vraiment y participer, il vous attirait, il vous fascinait ?
C'était intéressant d'abord parce que nous, on se déguisait déjà, donc c'était une façon de faire la fête, quoi. On n'était pas habillés comme d'habitude, on était habillés en... Je me rappelle qu'un des costumes que j'avais beaucoup aimé, c'était un costume de danseuse de flamenco, enfin, espagnole, machin, avec des volants, des histoires comme ça, parce que j'ai toujours aimé avoir beaucoup de toiles. Comme disait mon père, j'aimais toujours avoir des trucs immenses et compagnie. Donc c'était déjà pour nous un plaisir, quoi, d'aller voir le carnaval, et puis voir justement toute la créativité qu'il y avait en bas, non seulement au niveau des tenues, parce que les gens, il y avait beaucoup de thèmes. Alors on a défilé quand même, hein, pendant le carnaval, mais défilé avec les écoles, quand il y avait un thème décidé par les écoles. Il y avait une année, je me rappelle que c'était la mer, et certains étaient en étoile de mer, etc., etc., et on défilait. filet, mais on courait pas le vidé. C'était pas le gros vidé populaire et compagnie.
C'est quoi le vidé?
Le vidé populaire, c'est les gens s'habillent n'importe comment. Il n'y a pas de thème particulier. Ils s'habillent comme ils veulent. Ils se travestissent, quoi. Et puis voilà, donc c'est tout est permis. En tout cas, aujourd'hui, tout est absolument permis. Et puis, ils se retrouvent en groupe, quoi. Donc, il y a des groupes qui ont des déguisements à eux. Tout le groupe va défiler en premier. Et les autres qui veulent suivre, parce qu'ils aiment la musique de ce groupe-là, vont être derrière. Donc, de plus en plus, les tambours sont arrivés et on a de moins en moins eu de groupes jouant sur des chars. Kassav, à l'époque où Kassav a démarré aux Antilles dans les années 80, les premières sorties de Kassav pendant le carnaval, on avait des après-midi sur les chars où on jouait en live la musique de Kassav, la musique de carnaval, et les gens étaient derrière, la foule était derrière en train de chanter avec nous. Mais il n'y a pratiquement plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des groupes à pied, les tambours et en avant, quoi.
Ouais. Voilà. Ça, je crois que c'est quoi? Ça doit être fin de tournée aux Antilles en 84, 85, où vous finissez au carnaval à Fort-de-France.
Ah oui, on finissait, on faisait la sortie de Kassav, et qui était d'ailleurs extrêmement populaire. Je crois que ça a beaucoup joué aussi dans la popularité du groupe aux Antilles, en tout cas à la Martinique. En Guadeloupe, c'est différent. C'est plus organisé. Quand vous faites partie d'un groupe, quand vous êtes par exemple avec Aquillo ou avec Massaclé, etc., etc., ils ont des costumes spécifiques. Donc il faut savoir quel costume avoir pour être autorisé avec un machin. Vous ne rentrez pas comme ça dans un vidé sans avoir la tenue qu'il faut. Alors qu'en Martinique, il y a des groupes organisés et des groupes complètement libres et où on peut voir de tout. Il suffit d'avoir une paire de lunettes vertes qui monte sur les côtés et, je sais pas moi, une jupette avec des paillettes et compagnie. Vous êtes bon pour le carnaval, quoi, avec une paire de chaussettes ou je sais pas quoi. Donc c'est pas, vous n'avez pas besoin de grand chose du moment que c'est pas un habit normal. C'est bon, vous pouvez aller en ville et faire la fête, quoi. Mais les gens qui regardent aussi se déguisent, hein.
Ouais.
Exactement comme on faisait quand on était petit.
Alors moi, je me demandais, quand vous jouez avec Kassav sur un char au milieu du carnaval, qu'est-ce que ça fait tout d'un coup de se retrouver à jouer au milieu d'un déferlement populaire comme ça? Ça doit être impressionnant.
C'est impressionnant, et je me rappelle que moi qui suis quand même... Enfin, je suis toujours en train de faire attention à tout. J'étais assez effrayée. Par bonheur, on avait ce qu'on appelle les nègres gros sirop. Ils se badigeonnent de sirop batterie, ce qu'on appelle le sirop batterie. C'est le genre de mélasse, machin, avec du charbon brûlé. Et ils se teignent la peau en noir, vraiment en noir. Donc c'est luisant et les gens ont peur de se salir en se collant à eux. Donc ils servent de garde-fous. C'est eux qui font le service d'ordre autour des chars. Et donc, ils empêchent aux gens de venir trop près des roues. Parce qu'à l'époque, les gens, comme ils voulaient être tout près pour voir le groupe de près, j'étais effrayée parce que je me disais, s'ils tournent, il y en a un qui tombe, on ne sait pas. Donc, c'était... Moi, ça m'angoissait un peu, mais c'était de toute façon un réel bonheur malgré tout.
Ce carnaval, alors, c'est évidemment une énorme fête, une gigantesque fête, mais c'est aussi une fête politique dans un certain sens, puisque c'est une fête qui est héritée de la lutte contre l'esclavage. Il y a beaucoup de symbolique, beaucoup de messages qui sont portés. Il y a le Vaval, qui est un peu le personnage emblématique qui est détruit à la fin du carnaval, qui incarne des problématiques d'actualité, etc.
Ouais.
Donc il y a toujours une dimension de message politique et de revendication.
Ouais.
Est-ce que cette dimension contestataire ou en tout cas revendicative de la fête et de la musique, ça vous a marqué?
Certaines années, oui. D'autres, non. Parce que bon, il y a eu des choses plus ou moins réussies. Bon, le Vaval, tout le monde l'attend pour voir quel thème a été choisi et ça fait plus ou moins rire ou ça laisse complètement indifférent. La partie importante du Vaval, en fait, de l'effigie du carnaval, c'est le moment où on brûle. Parce que tout le monde sait que c'est fini. Et comme il y a le carême derrière, et qu'on est, nous sommes des sociétés laïques, je veux dire, la religion est quand même assez importante. Et après le carnaval, c'est le carême. Et pendant le carême, il y a plein de gens qui, pendant 40 jours, ne dansent pas, ne font pas la fête. Il m'est arrivé d'aller chanter pour des CE, par exemple, où ils étaient sagement assis derrière la table, parce que comme c'était le carême, il ne fallait pas s'envoyer en l'air. Et c'était assez épouvantable, quoi, parce que vous, vous êtes en train de vous démener. Et eux, ils regardent et ils applaudissent proprement à la fin, quoi. Et maintenant, ça change un petit peu, évidemment, avec les jeunes qui s'en foutent un peu de tout. Donc, il y a quand même des choses pendant le carême, mais c'est quand même assez en sourdine, quoi. Voilà. Donc, la fin du carnaval, quand on brûle le Vaval, c'est là où le Vaval devient important, parce que ça symbolise la fin de la grosse fête, de 3 jours de fête. Il y a des hommes qui partent 3 jours de chez eux, ils rentrent même pas. Je veux dire, ils sont avec leurs amis, mais ils rentrent crevés après, parce que quelquefois, ils dorment très peu. Mais c'est parce que c'est le carnaval, donc ils veulent se défouler pendant 3 jours non-stop, voilà.
Et de façon plus générale, plus globale, cette idée que finalement la fête et la musique peut être un vecteur de message, est-ce que c'est quelque chose qui ensuite, vous, dans votre démarche artistique, vous a suivi ?
Ah oui, complètement. Déjà, quand Kassav a été créé, Kassav a été créé pour plein de raisons, c'est-à-dire redonner aux gens de chez nous un peu quelques bases de qui ils sont. Dans les premiers albums de Kassav, il y avait des chansons comme Balata Belbois, comme Negmaon, etc., etc., qui parlaient quand même de l'histoire. Et tout le long, on a eu des moments où on a parlé de choses du pays, du devoir de mémoire et des choses comme ça. C'était pas uniquement au début. Au début, c'était beaucoup plus historique. Ensuite, on a développé plein d'autres choses pour donner aux gens, en fait, l'envie de se relever un peu. Parce que quand vous êtes issu d'un peuple où on vous a toujours dit vous êtes des second class citizens, il faut quand même dire aux gens, mais arrêtez, il faut arrêter les blagues, quoi. Si tu te lèves et que tu fais quelque chose, tu es quelqu'un. Tu vois, tu es quelqu'un avant tout. Tu vois, c'est pas l'autre qui va te dire qui tu es. Tu vois, c'est toi qui fais, qui te construis, en fait. C'était un peu notre leitmotiv. Et quand on a fait nos concerts au Zénith, la première fois, c'était la première fois qu'un groupe antillais faisait une grande salle parisienne. Je veux dire, les gens étaient extrêmement fiers et je crois que ça leur a donné justement l'énergie de croire que tout est permis, quoi. Je veux dire que s'ils s'y mettent, si réellement ils travaillent, ils peuvent réussir à exister dans ce monde. Non pas qu'ils n'aient pas cru qu'ils pouvaient exister, beaucoup, mais ils existaient de façon, je sais pas moi, c'était bon, on m'a donné une chance, je la prends, tu vois, c'était un peu sans faire de bruit, etc., etc. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde sait que si tu te lèves pas pour faire, ben tu vas, les autres ne vont pas t'apporter le truc dans la main, ça c'est clair.
C'est où ça l'a mené, la peau n'a pas qu'à trouver. Noir de nous qui goûter, en qui j'en la mette si creux. Oula, oula,
oula, oula.
Là où va nous qui arriver, c'est la limite qu'à créer.
Mais d'ailleurs, le fait même de chanter en créole, c'est une forme de revendication et de...
C'était une revendication, mais c'était aussi un amour pour cette langue. Cette langue qui s'appauvrissait et qui s'appauvrit encore, quoi, je veux
et
dire.
Était,
parce que...
qui était interdite chez vous, par exemple. Vos parents vous obligeaient à parler
oui,
français.
Oui, parce que le sésame, c'était la langue française, c'est tout. Parce que quand vous vouliez passer des examens et tout, c'était en langue française et qu'il fallait... Et qu'il fallait bien connaître cette langue-là pour pouvoir passer tous les diplômes qu'on voulait passer.
Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que si on s'intéresse à un certain nombre de genres de musique, on va dire pré-zouk, pré-kassav, ouais. Que ce soit le goka, guadeloupéen, le compas, en fait, on retrouve énormément de revendications, de messages sociaux, de récits, de luttes sociales, de blocages des routes, de grèves,
etc. Oui, complètement,
etc.
Complètement, complètement. C'est-à-dire que je pense que l'éducation qui a été... donné en fait en sourdine quelque part, c'était un petit peu d'effacer tout ce côté revendicatif, etc., etc. Parce que quand vous revendiquez, vous êtes à la campagne, vous revendiquez à la campagne, qui vous entend ? OK? Bon, quand vous arrivez en ville, si vous vous mettez à revendiquer comme à la campagne, on va dire, mais il y a un problème, il y a un souci. Tu vois, toi, tu as la chance de pouvoir passer des examens, de réussir et compagnie. Laisse ton côté machin, là. Tu vois, c'était un peu... La République, de toute façon, il n'y a pas de... Pour la République, il n'y a pas de communauté dans la communauté. Donc, on devait devenir de bons petits Français, et tout était fait pour que, justement, on soit dans cette optique-là. Et par contre, avec ma génération... Ça a commencé à se défaire. C'est-à-dire que oui, on a un passeport français, oui, on est un département français, mais on a des spécificités. Notre histoire, elle est différente. On vit à 8000 km. Il y a des choses que le Parisien ne comprend pas. Au niveau de la France même, au niveau culturel, au niveau musical, etc., je me demande comment les gens, justement, considère la musique qui vient des Antilles. Parce que souvent, c'est la musique de la fête, la musique du soleil, la musique, dès qu'on a dit tropical, c'est vacances, comme si, bon, les groupes, vous ne pouvez tourner que pendant l'été. Tu vois, parce qu'il y a du soleil comme chez vous et que les gens vont être contents de pouvoir danser sur les plages, sur des rythmes tropicaux. C'est un peu l'image que je ressens.
Mmh, voilà. Bien sûr.
La musique de Kassav est une musique quand même bien travaillée, avec une architecture qui, quand on décortique, on peut être extrêmement surpris de la richesse de cette musique-là.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais justement, je pense que Kassav est un des premiers groupes qui a réussi à dépasser cette image-là, ce stigmate-là, pour s'imposer comme un groupe de musique avec un vrai sens artistique, une vraie création. Ouais. Alors que, bah, pendant longtemps, c'est vrai que tous les artistes qui ont eu un succès populaire en Hexagone, alors que ce soit la compagnie créole, les Francky Vincent, les Zouk Machine, en fait, on est dans le cliché du tube de l'été. C'est ça.
C'est ça. En fait, Zouk Machine, c'était pas tellement ça au départ. Je crois que c'est à partir de Maldon, en fait, que ça s'est passé, parce que justement, ils ont signé en France et compagnie, et qu'ils étaient peut-être moins... Ils contrôlaient moins, en fait, leur image ou leur l'impact qu'ils devaient avoir. Bon, Francky Vincent, c'est particulier. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon. C'est vraiment particulier. Et la compagnie créole, par contre, elle a été créée pour, justement, avoir ce côté exotique. C'était pensé, c'est-à-dire que c'était une image qu'on avait des Antilles et qu'on allait donner, c'est de la musique caribéenne, enfin antillaise, mais remixée au goût français. C'était calculé comme ça. Daniel Vanguard, que je connais très bien, c'était ça. Moi, il m'aurait jamais appelé pour faire ça parce qu'il me connaissait. Il a pris des éléments qui pouvaient faire ce type de musique-là. Ça a bien marché pour eux, tant mieux. Mais je veux dire, ça ne nous a pas servi. Parce que justement, les gens étaient restés sur les Bamouin Antibos, les Adieu Foulard, la musique qu'on appelait doudouiste chez nous, pour tomber dans la compagnie créole, ça les rassurait. C'était dans ce qu'ils imaginaient qu'on pouvait être. Et Kassav arrive et défait tout ça, en fait. Et bon, et je n'ai rien à dire contre eux.
Non, voilà. Non, bien sûr, il s'agit pas de...
Francky Vincent... C'est autre chose.
On n'en parlera pas, c'est ça?
Non, je préfère pas. C'est un style, c'est son style. Et s'il en vit bien, tant mieux pour lui. Voilà. Mais ce n'est pas non plus à associer à la musique de Kassav.
Bien sûr.
Les Zouk Machine étaient assez proches de Kassav. C'était assez proche de Kassav. Bon, la démarche musicale est différente. Ce sont trois femmes qui chantent, donc c'est un autre truc. C'est plus la question vocale, le look, le machin un
le
peu
girls
à la.
Band, un
oui,
peu.
Voilà, voilà, à l'américaine, les Supremes, les choses comme ça, quoi. Donc c'était un peu ce côté-là qu'elles avaient, avec des morceaux qui étaient, ma foi, très sympathiques, qu'on adore jusqu'à aujourd'hui chez nous. Mais je veux dire, la musique de Kassav se voulait un petit peu expérimentale. Il y a même des morceaux qui, pour nous, étaient dans certains morceaux expérimentaux. On savait très bien que ça n'aurait pas été des tubes, mais on essayait des choses, etc. Et je me rappelle que Jacob, il disait toujours que quand il créait un morceau, il voulait toujours mettre dans ce titre-là quelque chose que personne n'avait jamais fait avant. Et c'est ça le problème, c'est que les autres n'ont pas eu les mentors qu'il fallait pour les aider justement à machin, et le zouk est devenu quelque chose d'un peu plus insipide, mais des choses qui fonctionnaient quand même. C'est des choses qui permettent de danser sans se poser de questions et compagnie, avec quelquefois des textes qui sont pas non plus très recherchés.
Tout à l'heure, vous avez employé le terme de doudouisme. Du coup, le doudouisme, pour expliquer, en fait, c'est justement précisément ce cliché folklorique de la doudou, la femme antillaise avec... avec son
sa coiffe
en madras,
et
le soleil, les tropiques, etc.
Et qui rigole fort et compagnie. On les rencontre quelquefois sur le marché. Il y en a deux ou trois qui jouent très bien ce rôle-là. Mais je veux dire, c'est pas une femme qu'on rencontre dans la rue de Fort-de-France. Vous direz, à Fort-de-France, vous avez des gens complètement différents.
Et alors, est-ce que Kassav, malgré tout, même si vous avez réussi à vous imposer comme des vrais musiciens, avec une vraie musique à son côté expérimental et tout, est-ce que vous avez souffert de ce stigmate, du doudouisme, etc. Je sais que dans le livre, vous évoquez une interview radio où le journaliste vous parle du côté joyeux de la chanson Soleil,
alors que
c'est une chanson qui n'est pas du tout joyeuse. Alors certes qu'il y a peut-être des rythmes syncopés du zouk, mais qui est une chanson plutôt qui parle de souffrance et de cœurs qu'ils n'ont jamais aimé.
Es un pele de sola, chamo chi move,
sola,
es un pe uve,
sola,
chamo chi feme,
sola,
es un pe chofe.
C'est-à-dire qu'on demande au soleil justement de réparer tous ceux qui ont besoin d'être réparés, que ce soit celui qui est triste ou celui qui est mauvais. Voilà, c'est un peu ça, c'est un peu une espèce de prière au soleil, quoi. C'est une question d'éducation. Tant que vous n'êtes pas invité à mieux connaître, ou si vous n'avez pas la curiosité de savoir exactement ce qui se passe dans tel ou tel pays, etc., ben vous prenez tous les a priori qu'on vous a balancés depuis votre enfance. Donc en fait, c'est sur la culture antillaise, je crois qu'il y a une grosse méconnaissance en fait de qui sont les Antillais véritablement.
On a beaucoup parlé et employé le terme de zouk, qui en fait est un genre qui a été largement démocratisé, popularisé par Kassav, dont l'idée c'était de créer un genre justement qui allait moderniser différentes musiques traditionnelles antillaises. Donc en fait, il y a un mélange.
Je ne sais pas si on doit dire qu'il doit moderniser les différentes musiques. Je crois qu'on a toujours eu du respect pour tous les types de musique qu'il y avait. C'était un style qu'on proposait.
Nouveau. Mais qui s'appuyait sur des rythmes hérités du guoka, cadence.
Oui, parce qu'on ne démarre pas, on n'invente pas un truc de rien. On part jamais de rien. Donc on est allé, on a fouillé le guoka, et puis à un moment, on a choisi un rythme qui était entraînant. Donc c'est la raison pour laquelle les gens parlent toujours de fête et de machin, parce que c'est un rythme qui est quand même assez gai. Même si on le joue en mineur, on va le rendre un peu plus mélo. Mais je veux dire, au départ, c'est quand même un truc qui vous booste. Parce qu'il y a des titres de Kassav qui sont des titres, moi je dis, sont des titres guerriers. C'est-à-dire que ça vous donne envie de vous lever, de faire quelque chose, quoi. Vous êtes debout et vous allez au combat. Jacob dit ça dans un des rythmes. Et ça me donne de la force, donc là, quand même, moins fausse. M'en paix aille au combat, je peux aller au combat, c'est-à-dire, mais le combat, c'est pas en guerre, c'est au combat, c'est-à-dire que tu es prêt à dire, voilà, je suis là, c'est ça. Et en fait, c'était ça qu'on voulait transmettre, qu'on a voulu transmettre aux gens de chez nous, c'est de dire qu'on peut être debout et avancer, faire des choses, ne pas rester assis, à s'entendre dire qui on est et à recevoir ce qu'on veut bien nous donner.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avant que ce mot désigne ce genre nouveau que vous avez créé, ça désignait en fait un lieu de fête, une salle de bal.
Voilà.
Le zouk, c'était la salle de bal.
Exactement. Pourquoi ? Parce que la musique de Kassav a commencé par être jouée dans les zouks. Si vous voulez être populaire, il faut que les gens aient la chance de vous entendre. C'est pas uniquement l'après-midi du Mardi Gras à Fort-de-France qui va vous permettre de faire connaître votre musique à tout un peuple. C'est quand ils auront l'occasion d'entendre en radio et dans les soirées. Donc la musique de Kassav était jouée dans les zouks. Et la musique de Kassav n'avait pas de nom. C'était la cadence, trait d'union, machin. Mais comme je dis, la cadence existait déjà chez les Dominicains. Ça aurait été difficile de dire cadence et cadence sans mélanger les deux. Tout le monde s'y perdrait. Donc en fait, il fallait réellement trouver un nom pour la musique qu'on proposait. Et comme c'était de la musique de zouk, c'est devenu le zouk.
Les quatre chambres, moi, en homme, comment fais-je, chimère?
Oui, à la base, c'était de la musique pour le zouk, enfin pour l'endroit le zouk,
ouais, voilà.
Et c'est devenu le zouk tout court.
Mais c'est comme la musique de discothèque est devenue le disco.
Mm-hmm. Exactement, c'est vrai
la
que
même
ça...
chose.
C'est vrai que c'est exactement c'est la même chose.
Mais oui.
Changeons un peu de deal, parce que vous avez passé un peu de temps en Jamaïque,
oui.
À un moment où vous avez travaillé avec une légende du reggae,
Perry.
Qui est Lyscratch Perry, effectivement. Ouais. Je me demandais si vous aviez eu l'occasion là-bas, justement, de faire la fête, d'aller dans des sound systems, de voir ce qu'était la fête à la jamaïcaine.
Alors, pas vraiment. J'ai eu plus l'occasion de le faire en Angleterre.
Ah oui.
En Angleterre, parce que ma sœur est mariée. Elle était pas. Elle est encore mariée à un ex-guitariste ou bassiste. Je sais plus s'il jouait de la basse ou de la guitare avec Steel Pulse. Il a fait les deux premiers albums avec Steel Pulse et il a arrêté. Et donc, j'allais souvent à Londres ou à Birmingham et on allait dans ce qu'ils appellent les blues. Où les gens étaient tellement stone qu'ils restaient sur place pour danser et tout. Mais on s'amusait follement, quoi. C'était à mourir. Oui, j'ai eu l'occasion.
C'est intéressant que vous parliez des sound systems jamaïcains à Londres.
Ouais.
Parce que justement, pour le coup, l'Angleterre, c'est un pays qui s'est nourri des musiques des Caraïbes.
Complètement.
Complètement, et qui a absorbé la musique jamaïcaine et toutes les influences des Caraïbes pour l'intégrer à sa propre musique.
Mais
et
complètement.
À sa club musique aujourd'hui dans les clubs. Quand on entend le son UK, c'est le son breaké. En fait, c'est influencé.
Mais oui.
Comment vous expliquez que l'Angleterre ait réussi comme ça à se nourrir de la musique des Caraïbes et qu'en France on se soit.
Ce sont deux mentalités complètement différentes. L'humour est différent en Angleterre et en France. Ce sont deux mentalités complètement différentes. Et je crois que l'Angleterre a peut-être mieux géré justement les différentes communautés qui existaient chez elle, qui existent encore. Alors que par ici, c'est un peu plus compliqué.
Pour revenir un peu à votre biographie, vous arrivez dans l'Hexagone en 1972 après votre bac. D'abord Pharma à Caen, puis après les Beaux-Arts à Paris.
Ouais.
Et là, je lisais dans votre biographie que vous faites plein d'amis antillais ou africains avec qui vous commencez à faire pas mal de soirées.
Ah, ça, c'était à Caen.
C'était à Caen
quand
en
j'étais
particulier,
à Caen. Oui, j'avais plein de copains. En fait, comme mon père ne me laissait pas sortir, jusqu'au bac d'ailleurs, quand j'ai réussi à mon bac, j'ai même pas fêté le bac le soir, j'étais dans un avion pour venir à Paris. Donc, c'était un peu une espèce de frustration. Et quand j'étais à la résidence universitaire, il y avait plein d'étudiants étrangers. Donc, les week-ends, évidemment, il y avait des soirées tout le temps. Moi, j'allais tout le temps. Tous les samedis, j'étais dans une soirée. Ça m'a pas empêché de travailler, hein. Ça m'a pas empêché de travailler parce que le restant de la semaine, je travaillais et le dimanche aussi. Mais le samedi soir, on allait danser.
Alors, voilà. C'est quoi ces soirées? C'était où? C'était quoi l'ambiance?
Alors, il y avait deux types de soirées. Il y avait la soirée estudiantine qui était essentiellement avec des DJ. C'est-à-dire qu'on mettait des disques, quoi. Alors, c'était James Brown. Il y avait celui qui imitait James Brown. Ce que j'aimais, c'est que souvent, les soirées africaines, ils choisissaient un lieu qui était mis à disposition, enfin, qu'on pouvait louer. Et il y avait une salle où ils pouvaient mettre justement toute la musique américaine, tout ça, pour ceux qui préféraient jerker, quoi. Et de l'autre côté, il y avait les musiques tropicales. Donc, les musiques africaines, pour ceux qui aimaient le soukou, ses compagnies, les musiques antillaises. Voilà, donc on faisait ça. Et donc, mon dernier bal, quand je suis partie, j'ai organisé un bal de revoir et j'ai choisi cette salle-là parce qu'on pouvait justement avoir les deux espaces et j'ai fait venir le groupe de mon frère également. Donc, ça, c'était les soirées étudiantines. Maintenant, il y avait les soirées en ville qu'on appelait les soirées des ouvriers. Parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas étudiants, qui travaillaient, donc à Caen, et c'était les ouvriers. Et on les fréquentait, on les connaissait et tout, mais c'était des soirées un peu, vraiment extrêmement populaires, quoi. C'était de la musique. Alors, quelquefois, il y avait des groupes en live. Dans ces soirées-là, à partir de 2-3 heures, il fallait partir. Parce qu'ils buvaient beaucoup de rhum, machin, et que quelquefois, ça finissait en bagarre. Et on ne voulait pas être pris dans une bagarre. Donc, on partait vers 2h, 2h30, on était rentrés au campus. Mais c'était des soirées où on s'amusait follement et on fréquentait tous les gens qu'il y avait là, quoi. C'était populaire,
ouais,
voilà.
Ouais. Il paraît que votre père a même débarqué parce qu'il avait entendu par les réseaux antillais que vous faisiez la fête.
Ah ben,
il est venu vous surveiller.
Mais enfin, je ne sais pas s'il a entendu que je faisais la fête, mais il entendait que j'allais à Paris et compagnie. Et lui, il m'a envoyé faire des études à Caen. En fait, il est venu en surprise pour un peu nous surprendre, voir si on ne vivait pas avec quelqu'un. Si, voilà, parce qu'il était très protecteur de notre vertu, ça c'est clair. Donc c'est... Et d'ailleurs, il a été très surpris parce que ma sœur, par contre, elle vivait avec quelqu'un. Et comme elle n'était pas au courant, il avait débarqué. Elle était partie en cours et le bonhomme, il était à la maison. Donc c'était un peu gênant. Et voilà, quoi, c'est la vie. On était loin, donc on avait nos vies. Là, c'est tout. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que quand je suis rentrée en vacances, je m'en rappelle, et que je voulais sortir un soir, ma mère m'a dit, demande à ton père. J'ai dit, attends, je ne vais pas aller lui demander. Je suis arrivée en face de lui et je lui ai dit, voilà, je suis venue te dire que je sors ce soir. Et ça a changé tout. Et ça a été vraiment le grand virage et tout. Mais mon père, c'est vrai qu'il, je ne sais pas, dans sa tête, il avait trop peur de nous perdre, je crois.
Bon, après, je ne vais pas refaire toute votre immense carrière, mais voilà, vous avez une carrière d'abord de choriste professionnel avec pas mal de formations. Et puis, début des années 80, vous intégrez le groupe Kassav, avec lequel, bon, bah là, ça explose, le succès qu'on connaît, les tournées mondiales, en Afrique, en Amérique latine, en Europe, les Zéniths, les disques d'or, etc. Tout à l'heure, vous disiez que pour vous, le concert était une forme de fête et de partage avec le public. Avec Kassav, c'était particulièrement le cas, c'était un show total sur scène.
C'est clair. Je crois que si on chante sans émotion, sans machin, on ennuie les gens en face. Donc, alors, si vous avez la chance d'avoir une superbe chanson, peut-être que les gens peuvent avoir un intérêt pour vous. Mais si vous ne montrez pas que vous y mettez toute votre âme, vous passez à côté d'un tas de choses et vous ne permettez pas à la personne qui est en bas de repartir avec un bonheur intense. Parce que je crois que c'est quand on chante une chanson... hier soir, par exemple, je chantais... C'était quelque chose de complètement inhabituel, puisque j'étais invitée par Tony Chasseur, qui a un big band de jazz. Donc, on a fait un standard de jazz américain, et puis on a repris des chansons à nous qui ont été réarrangées avec des arrangements big band, jazz, et tout. Et donc, c'est complètement différent, mais malgré tout, j'y ai mis le même cœur. Et il y a une fille à la sortie qui m'a dit « Mais tu peux pas savoir le bonheur !» Et c'est tout ce qu'on veut. C'est le seul cadeau qu'on désire. On peut donner des awards à celui-là, pour X raisons. Moi, je dis, sortir d'un concert et s'entendre dire « j'ai eu du bonheur », c'est la plus belle récompense au monde. C'est tout. Là, je dors comme un bébé après. Toutes les chansons que je chante, je raconte des histoires et mes histoires, j'y crois. Donc, je balance mon histoire, je suis toujours complètement dedans. Et je dois faire passer ce bonheur que j'ai, cette joie que j'ai, ce machin. Ici, c'est un truc de fête et compagnie, mais je vole dans tous les sens. Et d'ailleurs, mon corps commence à me dire qu'il faudra que j'arrête. J'ai plus l'âge. Mais j'arrive pas à me retenir. C'est comme ça. Et qu'à ça, véritablement, il y a des fois où j'arrive avant un concert, je me dis, je suis fatiguée, j'en peux plus. Je monte sur scène et il y a une espèce d'énergie qui vous prend et la fatigue, vous l'avez oubliée, quoi. C'est pour après.
Chanter, ça vous transporte comme ça et ça vous rend incomparablement heureuse. Est-ce que vous aimez danser ?
J'adore danser. J'adore danser. Et chez nous, on a plein, y a plein de danses. Moi, quand j'étais petite, on dansait la salsa, on avait tous des pas, on se mettait en ligne, on faisait le cha-cha-cha avec des pas, machin. On a appris tous les pas qui allaient avec tous les styles de musique différents qu'il y avait. Et la soca, la musique africaine, et patati patata, on dansait le soukousse, et patati patata. Pour moi, c'est un tout, quoi. J'ai été éduquée comme ça. Et j'y peux rien. Même quand on parle de musique classique, je veux dire, quelquefois, j'entends des trucs, mais je vois tout de suite un mouvement, un machin. Ça parle au corps. Je veux dire, la danse, la musique parle au corps. Ça vous donne... Je ne sais pas si je réponds complètement à la question.
Si, complètement.
Oui.
Parfaitement.
Et c'est... Pour moi, ça vous remplit et ça vous permet de sourire, de rêver, de peut-être vous lever, faire deux, trois pas de trucs et être bien. Être bien, ça répare.
C'est intéressant quand vous dites « j'ai été éduqué comme ça » parce que La Martinique fait partie des Antilles françaises qui elles-mêmes font partie d'une aire culturelle plus grande qu'on appelle les Caraïbes, qui elles-mêmes ont une grande connexion culturelle avec l'Amérique latine.
Voilà.
Et puis avec forcément aussi avec l'Afrique du fait de l'histoire esclavagiste.
Et les États-Unis.
Et les États-Unis aussi. Et j'ai le sentiment qu'il y a un rapport au corps sur le continent américain de façon générale qui est assez différent de celui qu'on peut avoir en Europe. Et pour prendre un exemple d'un autre invité que j'ai reçu, qui était Guy Cuevas, le DJ du Palace, qui est d'origine cubaine, il disait, mais en fait, nous, les Américains, on a un rapport beaucoup plus libéré et décomplexé au corps. En
c'est
France,
vrai.
Vous êtes coincés.
C'est vrai, c'est vrai. Et le truc, c'est toujours sentir les choses. Et il faut les sentir. Et on ne peut pas les sentir si on ne rentre pas dedans, franchement. La musique, c'est pareil. C'est faire corps.
Alors, revenons au concert et aux tournées de Cassa, parce que en ouverture de votre autobiographie Loin de la mer, vous racontez un jour où vous devez jouer, vraiment c'est le premier paragraphe, vous devez jouer à 6h du matin au Cap-Vert pour clôturer un festival, et vous écrivez « Nous ne sommes pas des couche-tôt, et 3 heures de sommeil, c'est plutôt maigre si on veut tout donner sur scène. »
Ouais.
Alors, quand vous dites « Vous n'êtes pas des couche-tôt », ça veut dire que pendant... Qu'est-ce que vous faisiez jusque si tard ? Est-ce que pendant les tournées de Cassa, après les concerts, entre deux concerts, il y avait la fête un peu?
Ben, beaucoup de gens, après un concert, ont besoin de faire descendre l'adrénaline, comme ils disent. Bon, moi, pas nécessairement. Si je sais que le lendemain, je dois me lever tôt, je vais me coucher. Hein. C'est tout. Mais je veux dire, se retrouver après un concert et pouvoir justement se détendre avant d'aller dormir, c'est toujours très bien. En plus, c'était mon anniversaire, donc j'avais plutôt envie qu'on fête un petit peu. Mais les autres étaient plus sages, ils sont partis se coucher. Donc, on s'est retrouvés à trois autour d'une bière. Voilà.
Et alors, est-ce que dans vos différentes tournées autour du monde, entre deux escales, vous avez eu l'occasion de croiser le chemin de fêtes un peu mémorables ici ou là?
Ah, on a fait des fêtes quelquefois. Moi, je me rappelle une fête qu'on avait faite. On était invités dans une boîte de nuit à La Réunion. Et à cette époque-là, en fait, je ne suis pas une grande buveuse. Je me saoule jamais. En fait, je tâche de ne pas être saoule. Et ce jour-là, il n'avait que du whisky et il nous servait. Et chaque fois que mon verre était vide, il le remplissait. Et on a vraiment fait la fête. Et quand je suis rentrée, j'étais comme dans les films, c'est-à-dire à chercher le trou de la serrure. Morte de rire. J'ai été direct sous la douche et tout, mais je m'étais complètement éclatée. C'est la seule fois où vraiment j'ai eu conscience d'avoir été au-delà de la limite du supportable en alcool. Et le lendemain, je l'ai bien senti aussi. Parce que, en plus, le restaurant, il fallait passer sur une espèce de vous savez, les espèces de trucs comme ça, là, c'était original, quoi. C'était sur l'eau. Donc on passait sur des comme ça, là, là, avec la tête qui tournait toujours. C'était assez mémorable, mais c'était bien amusé. Bien
mais c'est vrai qu'on parle de fête souvent, en fait, ça va aussi avec l'ivresse. Vous, c'est pas forcément
pas
quelque chose nouveau, non?
Non, pas nécessairement. C'est pas obligatoire. C'est vrai qu'un verre ou deux, ça fait du bien. Ça débloque.
Ça désinhibe.
Ouais, ça désinhibe, mais bon. Moi, je préfère rester un peu imagé parce que quelquefois, quand je suis désinhibée, je dis n'importe quoi. Je dis pas n'importe quoi, mais je peux. Si tu m'énerves, je vais te dire franchement que tu m'énerves.
Ok. Donc vous préférez la fête sous contrôle quand
oui,
même.
Oui, je préfère.
Et vous êtes beaucoup sorti en boîte de nuit dans votre vie?
Non, pas beaucoup.
Non.
Pas beaucoup. J'ai surtout été dans des boîtes où on écoutait de la musique live. J'étais vraiment beaucoup musique live. Je trouvais que la boîte de nuit avec discothèque. Au bout d'un moment, ça m'ennuyait, s'il ne passait pas les morceaux qu'on aimait ou machin. Alors, je l'ai fait, oui. Je l'ai fait en tournée, quand j'étais avec Lavilliers, avec la bande, on est allé, machin. En Afrique, on était souvent reçus après dans des boîtes de nuit, donc on allait là-bas. Mais on allait dans les boîtes de nuit, mais c'était rigolo. Je disais, ça y est, la répétition commence. C'est-à-dire qu'on arrivait pour nous faire honneur. Ils jouaient évidemment la musique de Cassa avant. Je disais, mais parce que peut-être bien qu'on entend d'autres choses, mais bon. Voilà, c'était ça, quoi. C'était leur façon de nous dire merci. Et donc, bon, au bout d'un moment, ça m'énervait parce que, bon, si. Moi, je dis, quand on va en boîte de nuit, surtout quand ce sont pour les danses à deux, je préfère être accompagnée et comme souvent, je ne l'étais pas. Donc, plutôt que de devoir dire non à des gens qui insistaient trop, c'était. Voilà.
Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui relie fondamentalement le carnaval à Fort-de-France, un concert de Cassava au Zénith, une soirée en boîte de nuit, un anniversaire
Oui, la chose commune qu'on va retrouver, c'est justement le fait que les gens sont ensemble et s'amusent ensemble. C'est ça. C'est une espèce d'unité dans le... où on ne regarde pas d'où vous sortez, qui vous êtes, ni qui ni quoi. Tout le monde est ensemble. Et ça, c'est génial. C'est vraiment génial. Et il y a quelqu'un qui disait d'ailleurs que lors du premier zénith, je crois que c'est Claude Hissard qui disait ça, que lors du premier zénith, mais beaucoup de gens aussi ont dit à peu près la même chose, il s'est retourné pour regarder la foule. Parce que c'était la première fois qu'il voyait autant d'Antillais, d'Africains, tout ça, ensemble, en chœur, quoi.
Une vraie communion, en fait.
Une communion, exactement. Mmh. Voilà le mot que je cherche.
En
communion, c'est vraiment ça. Je crois que c'est ça, le truc de la fête. D'ailleurs, on le voit quand on voit dans des films, des moments de fête où tous les gens sont ensemble avec la main en l'air et quand les DJ crient « Eh oh !» et quand tout le monde fait « Yeo !» C'est ça, le moment de communion. C'est à ce moment-là que c'est fort.
Alors du coup, est-ce qu'on peut faire la fête tout seul ?
On peut faire tout seul. Ouais. On peut faire la fête tout seul. On peut même s'éclater complètement tout seul. Oui, oui, oui. Ouais.
Vous le faites ?
Ça m'arrive. Ça m'arrive quand j'ai envie de déconner un peu. Ouais, je vais faire des mouvements, histoire de voir si je suis encore en forme.
Qu'est-ce qui peut tuer la fête ?
Des mauvaises conditions.
C'est-à-dire ?
Non, je veux dire ponctuellement, mais rien ne peut tuer la fête. Rien ne peut tuer la fête. Mais je veux dire, quand il y a une fête, s'il y a un truc qui tue la fête, ce sont les mauvaises conditions. On n'a pas prévu qu'il pleuve et on a mis des gens dehors.
Par exemple.
Par exemple, c'est couillon. Ou on va être dans une salle qui n'est pas adaptée. Il fait trop chaud, le son est minable. Ça tue une fête, oui. Ça, c'est...
Mais ponctuellement.
La fête, elle... Mais la fête, non. Rien ne peut tuer la fête. Les gens tuent la fête s'ils veulent se tuer, eux. C'est quelqu'un qui n'aime pas, qui n'a pas envie par moment de se sentir libre. Tue sa fête, mais pas la mienne.
En guise de conclusion, qu'est-ce que c'est pour vous, au final, que le sens de la fête, sa raison d'être profonde ?
Ah, je crois que c'est l'occasion qu'on a vraiment d'être libre, de vivre, de sentir les choses. La fête, c'est un moment de bonheur. C'est le bonheur, tout simplement. Le bonheur, c'est beau. C'est tout.
Le sens de la fête est un podcast de Nicla Radio, écrit et animé par Christophe Payet. Réalisation, Malo Williams.
Si vous ne deviez choisir qu'une seule track, qu'un seul morceau de musique pour faire la fête pour vous, le morceau ultime qui vous fait immédiatement partir.
Pouh. Ah ouais, c'est compliqué ça. On fait un medley.
On peut faire un medley.
Alors, on va mettre du Kassav, évidemment. Alors, ça va être après Zoukla ou bien Soulagé Yo, parce que je trouve que c'est très guerrier. Moi, j'aime cette chanson-là. Elle me booste, mais ça peut être... on peut ajouter un coup de Marley derrière. On va ajouter, je sais pas moi, un truc américain un peu. Soit Stevie, soit Earl Sweet.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
And fire, un truc comme ça. Il y a plein d'autres morceaux qui vous donnent envie de vous lever et d'être heureux, quoi. Plein. Mais ces trois-là, peut-être que si on fait, si je suis limitée, on va dire ça.